Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, et bien, chers amis, je voudrais vous souhaiter à tous une sainte année nouvelle, bien que strictement parlant, pour un catholique, l'année nouvelle commence en fait le premier dimanche de l'Avent. Cependant, nous passons en 2020, il nous faut beaucoup prier le bon Dieu pour qu'il nous trouve fidèles. Rappelez-vous le mot de Saint Paul, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Et qu'est-ce qui est demandé à un dispensateur? Demander d'être fidèle. Demandons la grâce de la fidélité. Nous commençons cette année, j'espère, en état de grâce. Nous commençons cette année, j'espère, avec la foi catholique. Est-ce que nous la terminerons avec la foi catholique? Est-ce que nous la terminerons en état de grâce? Donc la grâce à demander, elle est là. Donc dans la grâce de ne jamais perdre cette grâce sanctifiante, jamais perdre la charité, ne jamais perdre la foi. Passons bien par la Mère de Dieu, à la crèche de Noël, à la crèche de Bethléem. Alors nous continuons les explications de l'évangile selon saint Marc. Nous en sommes au chapitre 4, au verset 21, sur le polycopier qui couvre les chapitres 1 à 5 de saint Marc. Nous en sommes à la page 25, au milieu de la page. Voilà les versets que nous expliquons. Jésus leur disait aussi, est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sous le candélabre? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien ne se fait en secret qui ne doive paraître en public. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendrez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi envers les autres et on y ajoutera pour vous. Car on ne donnera à celui qui a déjà, on donnera à celui qui a déjà et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc voyons un petit peu ce que disent les pères. Je reprends là où je m'étais arrêté. Avec ce texte de Saint Bède le Vénérable, le boisseau. C'est l'image naturelle, dit-il, de notre vie renfermée dans la mesure déterminée par la Providence. Et le lit, c'est notre corps qui sert d'habitation, de lieu de repos à notre âme pendant cette vie. Donc placer la lampe sous le boisseau ou sous le lit, c'est donc cacher la parole de Dieu par un amour excessif de cette vie passagère et des jouissances charnelles. N'oublions pas que la vie sur la terre est un combat permanent entre d'une part la volonté de Dieu et d'autre part notre volonté propre, d'une part notre Seigneur Jésus-Christ, d'autre part le monde avec ses œuvres. Ses pompes et ses œuvres, avec les trois concupiscences de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Alors, au contraire, si on place cette lumière, puisque nous sommes la lumière, nous devons être la lumière du monde en tant que catholiques, placer cette lumière sur le chandelier, disent les pères, c'est assujettir son corps au ministère de la parole divine, nous faire dominer par la lumière divine, puisque notre Seigneur Jésus-Christ et la lumière du monde. Vous voyez pas ce qu'il a dit? Je suis la voie, la vérité et la vie. Si la voie, la vérité et la vie, il est la lumière qui dirige notre chemin, qui dirige notre voyage, qui dirige notre vie. Ainsi, le Seigneur, le Sauveur, veut-il inspirer ici à ses apôtres une sainte confiance dans l'exercice de la prédication. Il n'y a rien, dit-il, de caché qui ne doit être découvert, qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit venir au grand jour. C'est-à-dire, ne rougissez pas de l'Évangile, mais au milieu des ténèbres et des persécutions, élevez bien haut la lumière de la parole divine sur le chandelier de votre corps et conservez profondément imprimé et dans votre âme, le souvenir du jour où le Seigneur lui-même éclairera ce qui est caché dans les ténèbres. Nous devons tous être la lumière du monde, d'abord parce que nous avons le baptême. Nous sommes baptisés, donc nous avons ce sacrement de baptême, ce caractère du baptême. Et nous devons nous aussi être la lumière du monde. S'il fallait caractériser le monde moderne dans lequel nous vivons, nous sommes obligés de vivre, je l'ai déjà souvent dit, mais je pense que c'est important à comprendre. Je crois que les caractéristiques du monde, c'est justement là qu'ils se placent, qu'elles se placent. Il y a d'abord la saleté, la laideur. La laideur et la tristesse, pour moi, sont les deux caractéristiques du monde moderne. La laideur et la tristesse. Et cela peut être enfermé par un troisième terme, sous un troisième terme, l'obscurité de l'âme. Pour ceux qui ont fait les exercices de Saint Ignace, rappelez-vous les explications que donne Saint Ignace. Les signes par lesquels on peut reconnaître le travail du démon est toujours la tristesse d'abord, l'obscurité, la confusion, l'attraction vers le laid. Bien, cette laideur et cette tristesse sont tellement caractéristiques du monde moderne qu'il faut que les catholiques que nous sommes soient caractérisés justement par l'amour du beau. L'amour du beau, l'amour de la propreté, propreté morale, bien sûr. Vous voyez, on voit très bien l'histoire du monde. Prenez une église du Moyen-Âge. Il n'existe pas une église du Moyen-Âge qui soit laide. Ça n'existe pas. Parce que ça serait impensable. Imaginez un architecte du Moyen-Âge qui construise une église laide, mais il serait enfermé chez les fous, littéralement, au Moyen-Âge. C'est encore vrai pour les églises gothiques. Au contraire, aujourd'hui, plus c'est laid, plus ça plaît au monde. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. À tel point que ben, vous voulez trouver dans une ville que vous visitez pour la première fois, où est l'église officielle de Vatican II, l'église de la ville de Vatican II, cherchez le bâtiment le plus laid de la ville. Et quand vous l'aurez trouvé, eh bien, vous aurez l'église de Vatican II, le bâtiment de l'église de Vatican II. Au contraire, quand vous visitez une belle église romane du 12e ou du 13e siècle, tout est simple, tout est beau, tout est joyeux, tout est pacifique, tout est pacifié. Donc n'oublions pas que par le baptême, nous devons avoir cette lumière de notre Seigneur Jésus-Christ qui brille en nous, précisément parce que nous sommes comme un phare. Un phare, quel est le rôle du phare? Le phare, c'est une tour avec une lumière pivotante au sommet de la tour qui indique l'entrée du port ou qui indique un danger, par exemple des écueils, des récifs. Et le capitaine, dans la brouillard, qui ne voit plus très bien où il est, il cherche l'éclat du phare. Et avec cet éclat, il peut savoir où il est, il peut diriger son navire pour qu'il ne se fracasse pas contre les récifs, contre les écueils, ou il peut diriger son navire pour qu'il trouve la passe d'entrée du port et se protéger de la tempête. Eh bien, le chrétien, le catholique du monde moderne, c'est ça. Le catholique du monde moderne, c'est quelqu'un qui doit être justement cette lumière du monde. Cette lumière du monde. Et c'est rare, c'est devenu malheureusement de plus en plus rare, c'est pour ça que moi, ça me frappe de plus en plus. On a parfois des gens qui viennent nous voir, qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre dans la rue et qui brillent de joie de voir simplement un prêtre en soutane. Ça m'est encore arrivé ce matin. La petite ville à côté de chez moi, là, ici dans le Tarn, là où je suis, à Valence d'Albigeois, je suis tombé sur un monsieur déjà d'un certain âge qui promenait son chien. Sortais de ma voiture en soutane, bien sûr. Il m'a vu en soutane. Il est tout de suite venu vers moi. Voilà. Et il m'a appelé avec respect, Monsieur le curé. et était tout heureux de pouvoir adresser ce titre à quelqu'un qui était habillé comme un prêtre. Vous voyez? Mais c'est pareil pour vous, mes chers frères, vous qui m'écoutez sur Internet. Nous devons absolument réagir dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de prendre nos vacances, dans les lieux de vacances que nous prenons, dans les décorations que nous avons chez nous. Nous devons faire attention d'entourer notre âme et l'âme de nos enfants de cette beauté, de cette propreté, de cette paix que le monde est absolument incapable de donner. Nos pauvres enfants, dès qu'ils mettent le pied dehors, sont entourés, sont assommés par la saleté, la tristesse, la laideur du monde moderne. Il faut qu'au moins, lorsqu'ils rentrent chez eux, dans votre famille, dans votre maison, qu'ils soient entourés de lumière, de beauté, de propreté, de pureté. Mais si vous ne faites pas ce contrepoids chez vous, vos enfants vont être dévorés tout cru par le monde moderne. Alors soyons cette lumière du monde et posons cette lumière, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le candélabre de nos âmes. Donc, placer ainsi la lumière sur le chandelier, c'est assujettir notre corps et notre âme au ministère de l'Église catholique, au ministère de la parole divine, nous disent les pères. En ce jour, Dieu nous comblera de gloire et d'honneur, tandis qu'il fera peser sur les ennemis de la vérité le poids des châtiments éternels. On a parfois l'impression, en voyant le monde moderne, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est perdu. On a l'impression que les enfants du démon ont gagné la victoire, qu'ils font ce qu'ils veulent à longueur de journée. Nous sommes entourés, politiquement parlant, surtout par des ennemis de l'Église, des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à brûler tout ce qu'adorent les catholiques et à adorer tout ce que brûlent les catholiques. Mais n'oublions pas, mes bien chers frères, que tous ces ennemis de l'Église qui nous entourent, tous ces politiciens véreux qui nous dirigent en France, tous ces politiciens corrompus, moralement parlant, qui nous dirigent en France, ils ont l'impression d'avoir vaincu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils vont mourir un jour, comme tout le monde. Et le jour où ils mourront, ils vont apparaître devant ce Dieu qu'ils ont offensé, qu'ils ont méprisé, qu'ils ont relégué au loin pendant toute leur vie. Et ce qui va être terrible, c'est quand ces pauvres gens qui ont vécu sans Dieu, qui ont lutté contre l'Église, contre Dieu pendant toute leur vie politique, et qui vont se présenter devant bon Dieu, d'un seul coup, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Et notre Seigneur qui va leur demander, « Qu'as-tu à me donner ? Rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait de l'intelligence et de la volonté que je t'ai donnée ? Quelle est la couleur de ton âme ?» Et ce qui va être terrible, c'est le jour où tous ces pauvres gens qui nous dirigent vont se rendre compte qu'ils ont les mains vides devant notre Seigneur. Eh bien, ne soyons pas comme ça, mes bien chers frères. Nous, au contraire, emmagasinons dans nos coffres-forts spirituels, les coffres-forts de nos âmes, emmagasinons la beauté, la paix, la pureté, la joie que notre Seigneur Jésus-Christ seul peut donner. N'oublions pas la règle de saint Thomas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà ce que disent ici les pères en bas de la page 25 sur le polycopier. Les fontaines peuvent donner d'autant plus d'eau en surface qu'elles en ont reçu davantage dans les profondeurs de la terre. Donc il faut que, même si notre terre, notre tête est dans le monde moderne, il faut être enraciné sur ce roc qui est le Christ. Et que les prédicateurs, les maîtres et les catéchistes, on peut dire aussi les parents, apprennent de cette promesse du Christ que plus ils sont passés par des difficultés en enseignant les autres, plus ils recevront du Christ la grâce et la sagesse. Selon ses paroles, celui qui sème modérément moissonnera peu, mais celui qui sème dans l'abondance recevra beaucoup. Il ne faut pas nous décourager, mes bien chers frères. Apparemment, les ennemis de l'Église ont gagné la victoire. Mais rappelez-vous les promesses de notre Sainte Vierge Marie aux enfants de Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous savons de façon certaine que la victoire sera à nous. Certes, on sera traîné dans la boue par le monde moderne, mais un jour ils mourront, et nous aussi. Et si nous avons été fidèles dans notre vie, nous serons considérés comme fidèles par notre Seigneur Jésus-Christ, nous entendrons cette phrase de notre Seigneur, « Venez, bon et fidèle serviteur, venez posséder ce royaume des cieux qui a été préparé pour vous et pour les anges. » Passons à la page 26 sur le polycopier, versets 26 à 29 du quatrième chapitre de Saint Marc. Jésus disait aussi, « Il en est du royaume des cieux, le royaume de Dieu, comme lorsqu'un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit et le jour, la semence germe et croît sans qu'il s'en aperçoive. Car la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, ensuite l'épi, puis le blé, tout formé dans l'épi. Et lorsque le fruit est mûr, aussitôt on y met la faucille, parce que c'est le temps de la moisson. » Nous sommes une terre. Notre âme est une terre, un champ. Malheur à celui qui laisse son champ complètement inculte ou en jachère. Le bon Dieu veut que nous travaillions cette terre de notre champ spirituel qui est notre âme, qu'on y plante et quelques graines pour que justement nous puissions, avec la grâce du bon Dieu, donner du fruit. Et un jour, le bon Dieu viendra récupérer ce auquel il a droit, puisqu'il est le maître du champ. Nous ne sommes que les tributaires de ce champ, nous ne sommes que les fonctionnaires, je dirais, qui travaillons pour le propriétaire du champ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce propriétaire qui a une vigne et qui, au temps des raisins, va chercher son dû, va chercher les raisins. Il attend de recevoir des beaux raisins, et des beaux raisins pour faire du bon vin, et qu'est-ce qu'il reçoit à la place de beaux raisins? Il reçoit des raisins tout entourés, desséchés, tout rabougris, qui ne peuvent faire qu'une piquette au lieu de faire du bon vin. Et lorsque il revient pour rechercher son dû, ce auquel il a droit, qu'il ne trouve rien, mais parce que les travailleurs du champ ne veulent pas donner au maître le fruit de leur travail, eh bien, il va les maudire. Il va les maudire. Eh bien, mes bien chers frères, ne prenons pas ce risque. D'après saint Jean Chrysostome, le royaume de Dieu dont parle notre Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ, le mystère de son incarnation. Il en est de ce royaume comme d'un homme qui jette en terre de la semence. Car le Sauveur, Dieu et Fils de Dieu, par sa nature devenu homme sans altération de sa substance divine, a jeté pour nous sa semence sur la terre. C'est-à-dire qu'il a éclairé le monde entier par la parole qui lui a donné la connaissance de Dieu. Donc cette semence, c'est ce que veut dire le Père de l'Église ici, cette semence qui est mise en terre et qui dort, qui va littéralement mourir si le grain ne meurt, la plantule ne va pas pouvoir germer, eh bien ce grain qui dort sous la terre, qui va mourir sous la terre, qui va se décomposer sous la terre, ça représente le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, va pouvoir mourir sur la croix, il va être écrabouillé sur la croix, il va être tué sur la croix, mais de cette mort, de cet écrabouillement littéralement de notre Seigneur Jésus-Christ en son humanité sur la croix, vont sortir ce sang rédempteur qui vont racheter les âmes du monde et du péché. Donc, selon saint Jérôme, cette semence, c'est la parole de vie. Semence donc qui est jetée par l'agriculteur, c'est la parole de vie. La terre qui reçoit la semence, c'est le cœur de l'homme. Et le semeur qui se livre au sommeil, c'est la mort du Sauveur. Oui, on retrouve la même image. La mort du Sauveur, l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ qui semble cacher littéralement sa divinité sous notre humanité pour pouvoir mourir sur la croix. Mais n'oublions pas que même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, c'est un grand mystère, il a toujours la vision béatifique. Il est toujours Dieu. Il va mourir en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. La semence, elle germe, elle pousse le jour et la nuit. Ainsi, le nombre des fidèles, disent les pères, après le sommeil de Jésus-Christ, ne cessa de germer par la foi et de se développer par les œuvres à travers les vicissitudes des événements tour à tour heureux et malheureux. Notre Seigneur Jésus-Christ dirige son Église. Même si, humainement parlant, tout semble complètement mort, même si on a l'impression, selon les paroles du cardinal Pie, que l'Église catholique se réduit de plus en plus à des dimensions purement domestiques, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le patron, il est toujours Dieu. Alors quand va-t-il se réveiller? Ça, c'est son mystère.
sommes comme des, rappelez-vous, la parabole, ce qui n'est pas une parabole d'ailleurs, qui est un fait arrivé aux apôtres, qui traversent le lac sur une barque, dans une barque, et puis la tempête se lève, et les vagues montent, et le vent souffle en tempête, et l'eau passe par-dessus bord, et ils sont obligés de décoper, ils s'enfoncent, ils ont l'impression qu'ils vont couler. Alors ils crient au secours, Seigneur, venez à notre aide. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Au lieu d'être à la barre pour donner ses ordres, il dort. Il a la tête appuyée sur un coussin au fond de la barque, il dort. Alors, les apôtres vont venir vers lui. Seigneur, nous périssons, réveillez-vous. Et notre Seigneur va se réveiller et va les rabrouer gentiment, homme de peu de foi. Et il va à la tête de la barque, et là il donne des ordres au vent, aux vagues, à la mer, et tout se calme. Et la paix revient. Eh bien, c'est la même chose pour notre âme. C'est la même chose pour notre âme, eh bien, chers frères. Ces vicissitudes, des événements tour à tour heureux et malheureux dont parle Saint Jérôme, eh bien, c'est tout simplement notre vie de chaque jour. Avec toutes nos difficultés, toutes nos tentations, tous nos problèmes de chaque jour. C'est pour ça qu'il faut chaque matin, quand on se lève, offrir au bon Dieu par avance toutes nos difficultés de la journée. On peut même offrir nos péchés au bon Dieu. Vous dire, oh mon Dieu, le matin, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, malheureusement, je me connais, je suis encore capable de faire bien des bêtises, bien des bêtises aujourd'hui, dans cette journée-là. Je vous offre même les péchés que je vais faire dans mon malheur. Pardonnez-moi par avance tous ces péchés, mon Dieu, aidez-moi à ne pas les faire, à pas les recommencer. Rappelez-vous, Saint Jérôme qui voit notre Seigneur Jésus-Christ, un exemple que j'aime beaucoup, que je cite souvent dans mes cours. Rappelez-vous, Saint Jérôme à Bethléem, la veille de Noël, à qui apparaît l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus demande à Saint Jérôme, 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 que me donnes-tu pour mon anniversaire? Et Jérôme lui donne tout ce qu'il a. Et notre Seigneur n'est pas satisfait, il veut encore quelque chose d'autre. Et Jérôme n'a plus rien donné parce qu'il a déjà tout donné. Alors notre Seigneur Jésus-Christ de lui dire, Jérôme, donne-moi tes péchés, que je puisse les repardonner. Ça semble bizarre. C'est bien la dernière chose qu'on penserait pouvoir offrir à Dieu, pourtant. Le bon Dieu est venu sur la terre pour prendre nos péchés sur ses épaules. C'est l'histoire du bon Samaritain qui arrive, qui voit cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, celui qui a perdu la grâce sanctifiante. C'est Adam, c'est le successeur d'Adam, c'est chacun d'entre nous. Et il voit cet homme qui est à moitié mort, il est tombé aux mains des brigands qui l'ont laissé à moitié mort, qui ont pris tout ce qu'il avait. Alors il verse, il est plein de compassion, il va s'arrêter près de ce malade, il va verser sur les plaies le vin et l'huile, symbole des sacrements. Puis il va le placer sur sa monture pour le conduire à l'hôtellerie. La monture, les pères de l'Église disent toujours la même chose, c'est l'humanité de notre Seigneur. Le Christ dort, et qu'il monte au ciel, ou quoi qu'il paraisse dormir, il se lève, soit la nuit, en nous envoyant des épreuves qui nous rappellent son souvenir, soit le jour, lorsque, exaucant nos prières, il multiplie pour nous les moyens de salut. Le bon Dieu permet justement toutes ces épreuves par lesquelles nous devons passer, parce que nous vivons une vallée de larmes, nous ne sommes pas sur un tapis roulant qui nous amène ipso facto automatiquement au ciel. Notre Seigneur va donc se lever, disent les pères, lorsque par la douce influence de sa parole, il aide notre fécondité par les armes de justice, qui nous met dans la main droite et dont le jour est le symbole, dans la main gauche qui est représentée par la nuit des persécutions. Voilà ce qui fait germer la semence et l'empêche de se dessécher. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit et le jour, la semence germe. Et croit sans qu'ils s'en aperçoivent. Ça, c'est le symbole de toutes les difficultés par lesquelles nous passons. Nous passons par le jour, moment facile, par la nuit, moment difficile. De temps en temps, le bon Dieu nous donne du sel, du poivre. De temps en temps, il nous donne du sucre. Il sait ce qu'il fait. On a l'impression qu'on va être écrasé par la croix. On ne se rend même pas compte que la croix est en bois, elle flotte. Lorsque nous sommes tombés à l'eau, il faut s'accrocher à cette croix comme un naufragé qui s'accroche à une pièce de bois dans l'océan pour pas couler. Alors notre Seigneur va ensuite nous parler au verset 28 de l'herbe, puis de l'épi, et du blé qui est formé dans l'épi. Eh bien cette herbe, c'est la crainte de Dieu, nous disent les pères, qui est le commencement de la sagesse. Puis l'épi arrive, la pénitence. avec ses larmes. Et enfin, le blé qui remplit les pies. Dire la charité, que la charité est le parfait accomplissement de la loi. Donc il y a de la loi, pardon. Donc il y a trois éléments. D'abord la crainte de Dieu, commencement de la sagesse. Puis la pénitence, avec les larmes de componction. Et enfin, cela nous donne la charité, parfait accomplissement de la loi. Saint Jean Chrysostome explique que l'herbe qui pousse d'abord, c'est le fruit de la loi de nature, qui ne se développe que lentement. Plus tard, se montrent les épis qui seront réunis en gerbe et offerts à l'autel du Seigneur, c'est la loi de Moïse. Enfin, sous l'influence de l'Évangile, le fruit parvient à la maturité. On voit les différentes étapes. D'abord, la loi de nature, puis la loi de la grâce, et enfin la loi de la gloire au ciel. Mais avant de pouvoir aller au ciel, nous reposer au ciel, il faut passer par la grâce, et il faut bien sûr passer par la nature. Il faut donc mortifier notre corps pour apprendre à ne plus être mené par le corps. Nous avons ce combat constant. Nous avons en nous un ennemi, et cet ennemi, c'est notre volonté propre. Rappelons-nous à ce sujet l'enseignement de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Lorsque nous étions dans la chair, les passions coupables excitées par la loi agissaient dans nos membres et leur faisaient produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi de la mort dans laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans la nouveauté de l'esprit. Et ensuite, voilà le passage important, saint Paul va préciser. Je ne sais pas ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je hais, je le fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Car je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit, qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Si vous vivez selon la chair, nous dit saint Paul, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et il nous rassure en disant que les souffrances de ce temps présent n'ont pas de proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Rappelez-vous saint Pierre d'Alcantara qui apparaît à sainte Thérèse d'Avila après sa mort. Qui lui dit « Ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense !» Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, dit saint Paul, parce que nous sommes prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Qui donc nous séparera de l'amour du Christ ? Je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut croire, nous sommes des soldats du Christ. Nous sommes des combattants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne nous décourageons pas. En continuant les explications données par les pères de l'Église sur ces passages, donc cette vie qui est la nôtre, qui nous mène au ciel, qui doit nous mener au ciel, donc c'est le passage de l'herbe à l'épi et au blé qui remplit l'épi. Donc passage de la loi de la nature à la loi de la grâce pour nous amener à la loi de la gloire au ciel. D'autres explications des pères qui sont très belles, en bas de la page 26. On peut dire encore que nous devons non seulement nous couvrir des feuilles de l'obéissance, mais par la pratique de la prudence nous tenir droits et fermes comme la tige de l'épi, sans aucun souci des vents qui nous agitent. Enfin, nous devons nous appliquer, aider du secours de la mémoire, à faire produire à notre âme des fruits comme l'épi chargé de grains, c'est-à-dire le développement complet de la vertu. Si nous n'avons pas cette patience de porter notre croix derrière notre Seigneur Jésus-Christ, ben, notre blé ne germera jamais comme une Tu as une pierre qui roule, qui roule, qui roule, et qui n'amasse pas mousse parce qu'elle roule tout le temps, donc elle peut jamais donner de fruits. La semence produit d'abord de l'herbe, c'est le commencement du bien, puis un épi, c'est la résistance aux tentations, puis le blé qui remplit l'épi, c'est l'œuvre arrivée à cette perfection. Et si nous avons ces œuvres dans notre âme, ces œuvres de la charité, alors le jour où le bon Dieu viendra nous chercher, nous aurons quelque chose dans les mains à offrir à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous prendre au ciel. Si au contraire, nous en fait courir sans chercher à faire fructifier la semence qui a été plantée dans notre champ, eh bien nous aurons les mains vides le jour où notre Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher. Donc les Pères précisent, l'homme qui répand la semence sur la terre, c'est le chrétien qui sème dans son âme une intention sainte. Il semble dormir quand il se repose, dans la douce espérance que produit une bonne vie. Mais il se lève le jour et la nuit lorsqu'il avance dans la vertu, tant au milieu des épreuves qu'au sein de la prospérité. Facile à suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien pour nous. Le bon Dieu nous demande aussi de le suivre quand tout va mal. Et c'est même quand tout va mal qu'il peut voir où sont les vrais soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grain germe, sans qu'il le sache, ce que dit ici l'Évangile. Au verset 27, qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit et le jour, la semence germe et croît sans qu'il s'en aperçoive. Donc ce grain germe, sans qu'il le sache, lorsqu'il est incapable d'en mesurer les progrès, la vertu dont il a conçu le désir arrive à son complet développement. Donc c'est Dieu qui donne l'accroissement, attention. Dieu qui plante, c'est Dieu qui donne l'accroissement. Nous, il faut préparer le terrain pour que le bon Dieu puisse venir planter la graine dans le sillon. Mais si notre sillon est trop dur ou est envahi par les herbes, par les limaces qui vont tout manger, ou les mauvaises herbes, il n'y a rien qui poussera. Lors donc que nous concevons de bons désirs, nous répandons la semence dans la terre. Lorsque nous commençons à faire le bien, nous produisons de l'herbe. Lorsque nous faisons des progrès, page 27, dans la pratique des bonnes œuvres, nous devenons un épi ferme et vigoureux. Et si enfin nous parvenons à la perfection de la vertu, nous présentons au regard de Dieu un épi rempli de grains parvenu à la maturité. N'oubliez pas que ce que bon Dieu veut, ce n'est pas l'herbe, ni l'épi. En début de formation, ce que le bon Dieu veut, c'est le grain qui est dans l'épi. Et il connaît chaque épi. Il connaît chaque graine d'où sort l'épi. Et il y a des épis qui sont donnés, qui sont supposés donner 30%. 30 pour 1. Il faut donner 30 pour 1. Il y a des épis qui sont plus gros qui doivent donner 60 pour 1. Il faut donner 60. Et il y a des épis qui sont encore plus gros qui doivent donner, eux, 100 pour 1. Mais malheur à l'épi qui est supposé donner du 100 pour 1, qui n'en donne que 30 pour 1, 60 pour 1. Notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, on le voit très bien, toutes ces paraboles qu'il utilise, paraboles du royaume des cieux, eh bien, montrent bien justement l'inégalité des âmes. Chaque âme est différente. C'est tellement difficile d'expliquer ça aux fidèles aujourd'hui parce qu'ils sont tellement imprégnés par les idées modernes qu'ils croient que l'inégalité est quelque chose de mauvais. Mais non, le bon Dieu a créé le monde dans l'inégalité. Il n'y a pas de choses identiques dans le monde. Mais dans le monde moderne, toute inégalité veut dire injustice. Qui dit inégalité dit injustice. C'est complètement faux. Le bon Dieu a créé chaque âme différente. Il n'y a pas deux âmes identiques, pas deux intelligences identiques. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des maigres, il y a des gros, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a tout. Et quelle que soit la taille de notre âme, il faut aller au ciel. Et si nous avons une petite âme, le bon Dieu demandera moins à celui qui a une petite âme qu'à celui qui a une grande âme. Par cette parabole est donc signifiée, nous disent les pères de l'Église, par cette parabole est donc signifié, page 27 en haut, le pouvoir de l'Évangile qui petit à petit a pu envahir le monde entier pour tenter de se convertir au Christ. Donc les prédicateurs de l'Évangile ne doivent pas se glorifier de leur prédication comme si c'était eux qui convertissaient le monde. Une faute d'orthographe à corriger. Ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous sommes des instruments du bon Dieu. Nous sommes les régisseurs, si vous voulez, d'une propriété qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos âmes. Si nous étions les propriétaires de nos âmes, nous pourrions faire ce qu'on veut de nos âmes. On n'est pas notre âme. On n'est pas les propriétaires de notre âme. On est les intendants de l'âme. En quelque sorte, on fait fructifier quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc le propriétaire va venir réclamer son dû au moment de notre mort, attention. De plus, le Christ explique aux prédicateurs de ne pas se décourager s'ils voient que leurs fruits sont petits et tardifs, car Dieu peut obtenir la conversion de beaucoup d'autres par le biais du petit nombre déjà converti. Ainsi, Saint Jacques, à partir des 7 ou 9 premiers chrétiens, a-t-il pu convertir toute l'Espagne. Vous connaissez tous cette apparition très connue, la première apparition en fait de la Sainte Vierge. Première apparition de la Sainte Vierge, elle était vraisemblablement encore vivante. Donc elle est apparue à Saint-Jacques, qui se désolait en Espagne parce qu'il n'arrivait pas à convertir les Espagnols. Elle était à Saragosse, et à Saragosse, la très Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, lui est apparue sur un pilier, Notre-Dame du Pilier. Elle l'a encouragé en lui promettant que les Espagnols trouveraient la foi, c'est ce qui s'est fait. Et en fait, au début, il n'avait converti que 8 ou 9 personnes, c'est tout. Et c'est le cas de combien de missionnaires? Combien de missionnaires ont tracé le sillon, ont nettoyé le champ, ont enlevé les mauvaises herbes, ont enlevé les limaces, ont enlevé les pierres, ils ont planté, ils ont recouvert le sillon, la graine, pour que ça germe, ça n'a rien donné. Alors ils ont recommencé, ils ont retravaillé la terre, ils ont remis des graines, ils ont fermé les sillons. Et parfois, ils ont passé des années, des années, des années à faire ça. Ces premiers missionnaires, parfois dans certains pays, j'avais lu les récits de certains missionnaires en Chine, par exemple, tout à fait au début de l'évangélisation d'une partie de la Chine. Des langues impossibles à apprendre, des coutumes sociales, familiales, totalement différentes de celles que nous connaissons en Europe. Et puis, parfois ils passaient des années, des années, des années comme ça. Rien, 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 rien de levé. Et puis pourtant, le bon Dieu a trouvé ses enfants dans cette terre. Un autre exemple que j'aime beaucoup, j'ai souvent déjà donné, mais je redonne parce que ça me vient à l'esprit, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est dans la vie de Saint-Pierre Chanel, qui est patron de l'Océanie. J'ai été missionnaire en Océanie pendant longtemps. Saint-Pierre Chanel, un Français, était patron de l'Océanie. Il était à Wallis et Futuna, dans le milieu du Pacifique, au milieu de nulle part. Il a prêché. Il a travaillé, 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 il n'a rien obtenu, pas un seul baptême d'adultère, il a baptisé quelques enfants qui mouraient, puis c'est tout. Puis il a fini par être massacré. Ils l'ont tué, Saint-Pierre Chanel, le martyr. Alors, après le martyr de Saint-Pierre Chanel, le supérieur a envoyé un remplaçant, Saint-Pierre Chanel, c'était un peu tard, mais enfin il était déjà mort. Enfin, le remplaçant est quand même venu, hein. Et là, dès qu'il est arrivé, tous les Indiens des Wallis et Futuna ont demandé le baptême. Pourquoi? Parce que le sang des martyrs est une semence de chrétienté. Donc, moralement, on peut voir une augmentation des vertus et des mérites en 3 temps. Donc, encore une fois, c'est un commentaire sur ces 3 choses. Donc, l'herbe, puis l'épi non formé, et l'épi formé avec le blé. On peut voir une augmentation des vertus et des mérites en 3 temps, par la graine qui germe dans la terre de notre cœur. L'herbe, dans notre cœur, conçoit le bon désir. C'est le début du bien, dans la loi de la nature. L'épi, quand on voit les œuvres sérieuses et la résistance aux tentations, dans la loi de Moïse. Et enfin, le grain de blé, quand les œuvres des vertus arrivent à leur pleine maturité et perfection dans la loi de l'Évangile. Donc ça prend du temps. Le blé ne va pas arriver en 5 minutes. Il faut passer par l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Et Saint Bède fait remarquer qu'il faut du temps pour que l'herbe en arrive à porter du grain mûr pour la moisson. On ne se convertit pas en 5 minutes, mes bien chers frères. On ne se convertit pas en 5 minutes et il faut beaucoup de temps pour arriver à la conversion. C'est pour cela que lorsqu'on prêche les exercices Saint-Ignace sur la méthode du Père Valère, 5 jours, mais on ne commence pas tout de suite par les confessions. On donne d'abord 2 jours et demi de préparation. Et on en bat pendant 2 jours et demi avant de pouvoir confesser les gens, les ramener au sacrement de la Sainte Eucharistie, quand c'est possible. Page 27, continue avec les versets 30 à 34 du chapitre 4 de Saint Marc. Notre Seigneur disait encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme un grain de sève qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et leur exposer la parole par de nombreuses paraboles de ce genre, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien dans sa prédication, avait cette grande simplicité. Et il expliquait tout en parabole, comme s'il parlait à des enfants. Nous sommes des enfants devant Dieu. Et il répétait les mêmes choses. On voit notre Seigneur qui répète, il ne donne pas simplement une seule parabole sur le royaume des cieux, il va en donner 5 ou 6. Il répète, changeant un peu ses exemples à chaque fois, pour être sûr que les gens comprennent. Et en plus, en privé, il donnait les explications théologiques qui étaient nécessaires aux apôtres. Quoi de moins considérable que la parole de la foi? Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Et cependant, la prédication de cette parole répandue est comme semée par toute la terre et a pris de tels développements qu'elle a offert un abri aux oiseaux du ciel, c'est-à-dire aux âmes contemplatives, aux esprits plongés dans la méditation des grandes vérités. Combien de philosophes, disent les pères en bas de la page 27, combien de philosophes parmi les gentils ont abandonné leur vaine sagesse pour venir reposer leur âme sous l'arbre de la prédication évangélique. On voit très bien dans les philosophes grecs et romains, même chez ceux qui sont montés très loin dans la connaissance naturelle. N'oublions pas qu'un païen comme Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, était déjà arrivé à la preuve naturelle de l'existence de Dieu, le premier moteur, la première intelligence, la première cause, la cause de tout. Donc, la prédication de cette parole, c'est ainsi que cet arbre de la prédication de la foi, a surpassé tous les autres. Cet arbre a étendu loin ses branches. Les apôtres, comme les rameaux de cet arbre, se sont répandus partout, les uns à Rome, les autres dans l'Inde, les autres dans toutes les autres parties de l'univers. On a retrouvé, il y a peu de temps, en Chine, des bas-reliefs qui représentent l'apostolat de Saint Thomas. Vous vous rendez compte? Saint Thomas. Je vous conseille beaucoup de livres. Un livre magnifique de Mgr Gaume qui s'appelle « De l'évangélisation apostolique du globe ». C'est splendide. Et il explique, Mgr Gaume explique justement très bien que du temps même de la vie des premiers apôtres, les apôtres sont déjà partis, miraculeusement d'ailleurs, dans le monde entier, porter la parole de Dieu. Déjà l'évangile a été porté dans le monde entier du temps des apôtres, par miracle. Comme Dieu qui a fait porter par un ange le prophète Habacuc, ou l'ange qui vient nourrir Daniel dans la fosse aux lions. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le bon Dieu a fait des miracles pour transporter les apôtres dans le monde entier, pour déjà commencer à prêcher l'évangile. Alors les modernes, évidemment, se moquent de nous quand on dit ça. Pourtant, c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai déjà donné souvent comme exemple, ce qui m'a plus frappé quand j'étais missionnaire au Mexique, lorsque Notre-Dame de Guadeloupe est apparue en 1531, les missionnaires qui étaient là, des franciscains, des dominicains, étaient stupéfaits de voir que les Aztèques savaient que le Dieu véritable était un Dieu de 3 personnes. Ce n'est pas des choses qui s'inventent, ça. Ils le savaient. Parce qu'il y a des générations, des générations, des générations, des générations, des anciens, un ancien était venu de l'autre côté des mers, et avait appris à nos ancêtres, ont-ils dit aux missionnaires, avait appris à nos ancêtres que le vrai Dieu était un Dieu en 3 personnes. Et encore une fois, d'après les conclusions des archéologistes modernes qui sont nets, il y en a encore quelques-uns, heureusement, eh bien, saint Thomas est allé jusqu'en Chine, pour prêcher déjà la parole de Dieu. Saint Jérôme dit que cette semence, toute petite dans le cœur où règne la crainte, se développe dans la charité qui est la plus grande de toutes les plantes. Donc cette plante, ce grain de sénévé qui est la plus petite des semences du potager, qui va se développer et former un arbre, mais représente justement la vertu de charité, car Dieu est charité. Toute chair est comme l'herbe des champs. Cet arbre a étendu les rameaux de la compassion et de la miséricorde lorsqu'il a offert aux pauvres de Jésus-Christ, figurés par les oiseaux du ciel, un abri et un doux lieu de repos. Donc nous devons avoir en nous cette charité qui va se développer comme la graine de sénévé se développe et devient une grande plante, un arbre, dit l'Évangile. Lorsqu'on le sème dans la terre, dit notre Seigneur, elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a germé, elle monte, elle devient plus grande que toutes les légumes, cette graine. Et elle pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son ombre. Et bien, ces oiseaux du ciel sont justement les pauvres. Les pauvres qui viennent chercher refuge sous l'arbre de la foi, sous l'arbre de la charité. Les pauvres de Jésus-Christ qui sont figurés par les oiseaux du ciel. Et ils étaient dignes d'entendre en particulier l'explication des mystères dans la retraite profonde de leur amour et de la sagesse. De l'amour et de la sagesse, eux qui, loin du tumulte et des pensées mauvaises, vivaient habituellement dans la solitude silencieuse des vertus. Car c'est dans le repos et le calme du cœur que la sagesse fait entendre ses leçons. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ va d'une façon toute spéciale justement former ses apôtres. Selon saint Bède le Vénérable, en haut de la page 28, l'homme qui sème est, suivant les uns, le sauveur lui-même, et suivant les autres, l'âme chrétienne qui répand dans son cœur la semence qui lui a été confiée. Il ne faut pas simplement semer dans notre propre champ, il faut aussi semer dans le champ du voisin, après avoir aidé le voisin à préparer son champ. C'est le cas des parents. Les parents ne sont pas seulement en charge de leur propre champ, ils sont aussi en charge du champ de leurs enfants, de l'âme de leurs enfants. Ils doivent semer aussi la bonne nouvelle dans le champ des enfants. Et donc il faut aider nos enfants, nettoyer le champ. Si on se contente de jeter la semence comme ça, sans se préoccuper de savoir si les enfants ont bien nettoyé le champ, enlevé les pierres et les limaces pour que la plantule puisse se développer normalement, bien les parents sont responsables. Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Jésus leur dit en ce jour, lorsque le soir fut venu, « Passons sur l'autre bord. » Ayant envoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque telle qu'il était, et d'autres barques le suivaient. Il se leva un grand tourbillon de vent, et les flots entraient dans la barque en sorte qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui disent, « Maître, vous est-il indifférent que nous périssions ?» Alors, s'étant levé, il menaça le vent et dit à la mer, « Tais-toi. Calme-toi. » Et le vent cessa, il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci à qui les vents et les mers obéissent ?» On voit très bien que la foi des apôtres est encore faible. Ils n'ont pas encore vraiment compris que cet homme extraordinaire qui est devant eux est le Fils de Dieu. Vous voyez ? Ils ne voient encore que l'humanité. C'est pour ça qu'ils se posent la question, quel est donc celui-là à qui les vents et les mers obéissent? S'ils avaient compris que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, ils ont trouvé parfaitement normal que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, puisse donner des ordres au vent, aux vagues, à la tempête, à la mer, et calmer tout ça. Nous voyons, dit saint Rémy, au milieu de la page 28, nous voyons dans les saints évangiles que Jésus avait trois lieux de refuge, la barque, la montagne, le désert. Et toutes les fois qu'il est pressé par la foule, il se réfugie dans l'une de ses retraites. La barque sur la mer ou sur le lac, la montagne, pour la solitude de la montagne, et le désert, pour y être tenté par le démon. Eh bien, c'est une leçon pour nous, eh bien, chers frères. Nous aussi, nous sommes pressés par la foule, nous sommes pressés par les gens du monde. Il faut savoir se réfugier dans l'une de ces trois retraites. Dans la barque, dans la montagne, dans le désert. Il faut savoir fermer les écoutilles, les fenêtres de notre âme, protéger, fermer les fenêtres par les volets pour se protéger du monde. Et ne pas laisser notre sanctuaire, le sanctuaire c'est notre âme, notre sanctuaire envahi justement par les idées du monde. Pour garantir ses disciples de l'orgueil que pouvait leur inspirer le choix spécial dont ils étaient l'objet, notre Seigneur permet qu'ils soient exposés à un extrême danger. Il veut en même temps leur apprendre à supporter courageusement les épreuves et il s'éleva donc un vent impétueux. Ce vent impétueux représente le vent impétueux des tentations. C'est un passage extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ en pleine tempête qui dort sur un coussin à la poupe du navire. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères, si nous sommes en état de grâce, il dort dans notre âme. Il y a la tempête dehors, il y a le vent, il y a les vagues, il y a les courants, il y a des vents furieux. Et notre Seigneur Jésus qui dort, qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer qu'il est là, c'est tout. Mais un vent terrible dort. Oui, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans votre âme, monsieur? Ben oui, il dort? Oui, c'est pas grave. Mais pourquoi il ne se lève pas pour calmer tout ça? Il sait ce qu'il fait. Il est là, c'est ça qui est important. Et à partir du moment où notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'âme, il n'y a rien à craindre. Afin donc que le miracle dont ils vont être témoins laisse dans leur âme une plus vive impression, notre Seigneur se livre au sommeil pour laisser à la crainte l'occasion de s'emparer d'eux. Mais Jésus était à la poupe, dormant sur un oreiller. S'il avait veillé, ou les disciples n'auraient eu aucune frayeur et n'auraient pas eu recours à lui au fort de la tempête, ou bien n'auraient pas cru qu'il pût faire un si grand miracle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser la faiblesse de la foi des apôtres pour la renforcer justement cette foi. Homme de peu de foi, pourquoi êtes-vous effrayé? N'avez-vous pas encore la foi? Ils ne comprennent pas encore. C'est un peu notre histoire, mon chauffeur. Nous, on est comme les apôtres. Hein. On voit cette tempête terrible, cet ouragan terrible, on panique complètement. On ne se rend même pas compte que notre Seigneur Jésus-Christ est dans notre âme, donc il n'y a rien à craindre. Est-ce que vous croyez que le démon va rentrer dans une âme ou dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ repose sur un coussin? Jamais. Donc il n'y a rien à craindre. Alors, il y a d'autres symboles expliqués par les pères qui sont magnifiques. J'ai mis les plus importants là sur le papier. C'est ainsi que les dépositaires de l'autorité, par la menace des châtiments, imposent un frein aux perturbateurs de la tranquillité publique. Le sauveur agit donc ici comme un souverain qui fait usage de menaces contre les sujets turbulents et qui, par de sages édits, met un terme au murmure des rebelles. Ainsi, à ce signe, les disciples reconnaissent en lui une puissance divine, mais le sommeil auquel ils s'abandonnent ne leur fait voir en lui qu'un homme. Donc, si vous voulez, à la fois, ils voient l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui dort à la poupe du navire sur un coussin, et en même temps, ils voient Dieu. Quel est donc celui-ci à qui les vents et les mers obéissent? Donc, ils voient à la fois Dieu et à la fois l'homme. Ils n'arrivent pas à mettre, évidemment, dans la même personne les deux natures, pas encore. Ils n'ont pas encore compris que cet homme devant eux a à la fois une nature humaine et à la fois une nature divine. Donc, comme homme, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, on voit qu'il dort ici. Et comme Dieu, il commande la tempête, parce qu'il est maître des éléments. Donc, si les apôtres qui avaient déjà assisté à tant de miracles de notre Seigneur Jésus-Christ ont tellement peur, bien, chers frères, soyez pas étonnés si vous et moi nous sommes complètement paniqués dans la tempête du monde moderne. Hein. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est ce qu'il fait. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc ne nous décourageons jamais, même si les choses ne sont pas faciles tous les jours. Au sens mystique, voyons au sens mystique donné par Saint Jérôme. Donc d'abord, il remarque que notre Seigneur Jésus-Christ ne dort pas n'importe où, mais à la poupe du navire. La poupe du navire, c'est le commencement de l'Église, dit-il. Le Seigneur y dort, non seulement de corps, car celui qui garde Israël ne dort jamais. La poupe, sous les peaux des bêtes mortes, contient des hommes vivants. Elle éloigne les flots et sa force est dans le bois. C'est l'Église qui est sauvée par la croix et la mort du Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui navigue sur les eaux, sur le bois du navire, bien, cela représente, si vous voulez, la croix qui flotte sur l'eau et qui permet notre rédemption. Ce coussin sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ dort, cet oreiller, c'est le corps du Seigneur, nous dit Saint Jérôme, sur lequel la divinité, figurée par la tête, a bien voulu se reposer. Les vents déchaînés, la mer furieuse, sont les démons et les persécuteurs. Le Seigneur leur impose silence lorsqu'il lui plaît de frapper d'impuissance et d'écrés injustes les rois de la terre. Et le calme profond, ça c'est important, le calme profond qui succède à la tempête, c'est la paix rendue à l'Église après la persécution, ou bien c'est le repos de la vie contemplative qui succède au mouvement de la vie active. On voit très bien qu'après une grande journée apostolique, il a été pressé par la foule, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il monte dans la barque où il se met au vert en quelque sorte dans le désert, vous voyez? Il se met au vert dans le désert justement pour ne pas se laisser envahir par l'esprit du monde. Rappelez-vous, je pense que c'est un point important, les trois lieux de refuge de notre Seigneur, la barque, la montagne, le désert. Si vous avez le Saint-Sacrement, moi j'ai la chance d'avoir le Saint-Sacrement dans mon petit oratoire, dans l'appartement où je suis, là, à Padiès, eh bien, c'est une grande joie pour moi d'avoir le bon Dieu juste à côté de chez moi, juste à côté de moi, quelques mètres de mon bureau, quelques mètres de ma chambre, eh bien, j'ai le bon Dieu qui est là, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et je peux, n'importe quand dans la journée, aller voir notre Seigneur Jésus-Christ, quand des moments difficiles, des moments de découragement, des moments de tentation. On va devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous n'avez sans doute pas le Saint-Sacrement chez vous, mais vous avez le bon Dieu dans votre âme, mes bien chers frères. Vous avez le bon Dieu dans votre âme par la vertu de charité. Alors quand les tentations sont là, quand les difficultés sont là, quand les épreuves sont là, allez vous réfugier devant notre Seigneur. Allez vous jeter devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans votre âme, par la charité. Et faites-lui doucement ce reproche des apôtres. Seigneur, Maître, vous est-il indifférent que nous périssions? Alors notre Seigneur va se lever, il va menacer le vent et dire à la mer, tais-toi, calme-toi, le vent cesse et se fait un grand calme. Et le calme va revenir dans notre âme parce que le bon Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc la vie active doit être alimentée par la vie contemplative. Plus un prêtre a une vie active, plus il doit avoir une vie contemplative pour contrebalancer la vie active. Peut-être qu'au Moyen Âge, les prêtres pouvaient arriver à tenir le coup avec une demi-heure de méditation par jour. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui. Les prêtres devraient tous avoir un minimum d'une heure de méditation tous les jours pour arriver à tenir le coup. Sinon, on se fait manger tout cru par le monde moderne. Donc Saint Bède le Vénérable, donc Saint Bède, la page 28, fait remarquer que cette barque dans laquelle monte le Sauveur, cette barque est en bois, c'est donc l'arbre de la croix, j'ai déjà expliqué ça une fois, qui est la voie par laquelle les fidèles abordent à la demeure de la patrie céleste, comme dans un port assuré, inaccessible à la tempête, de même que au milieu de la tempête, le pilote du bateau cherche le phare qui indique la passe d'entrée du port et va vite mettre faire passer son bateau par la passe, guidé par le rayon du phare, pour mettre le bateau à l'abri. De la même façon, lorsque nous sommes dans les eaux de la tentation, bien, il faut regarder le phare. Ce phare, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est élevé de terre. Il l'a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc ces barques, il y a marqué dans l'Évangile que notre Seigneur n'était pas seul, il y avait d'autres barques. D'autres barques le suivaient. Ces barques qui accompagnent celles du Sauveur sont la figure des âmes qui, comme imprégnées de la foi dans la croix de Jésus-Christ, sont à l'abri des tempêtes et des tribulations ou bien abordent enfin au séjour de la paix après avoir subi la tourmente des épreuves. Le bon Dieu ne permettra pas encore une fois que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est absolument, absolument impossible. Il ne faut jamais, jamais se décourager parce que justement le bon Dieu ne permet pas, si vous voulez, limite la puissance du démon. Le démon ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais pendant que les disciples naviguent sur la mer, en haut de la page 29, pendant que les disciples naviguent sur la mer, que le Seigneur. C'est pendant que les disciples naviguent sur la mer que le Sauveur se livre au sommeil. Ainsi verront-ils un jour arriver la passion du divin Maître au moment même où ils méditeront sur le repos de son royaume futur. C'est le soir que ce fait en lieu, que ce fait eut lieu. Avec une faute d'orthographe qu'il faut corriger. Parce que le coucher du véritable soleil doit être figuré, non seulement par le sommeil du Seigneur, mais encore par l'heure même où l'astre du jour se dérobe à nos regards. Lorsque le Sauveur monte sur la poupe de la croix, il voit se soulever autour de lui les flots des blasphèmes et de ses persécuteurs, excités par une tempête qui vient de l'enfer, tempête qui ne peut troubler sa patience, mais qui ébranle la faiblesse de ses disciples. Remarquez bien que dans ce texte, ce sont les apôtres qui paniquent pas notre Seigneur. Notre Seigneur, non seulement il panique pas, mais non seulement notre Seigneur Jésus-Christ ne panique pas, mais il dort tranquillement. Parce qu'en lui est la paix constante, justement parce qu'il y a cette union extraordinaire entre son humanité et sa divinité. Et l'empressement des apôtres à éveiller leur maître figure donc le désir ardent qu'ils ont eu de le voir ressusciter. « après l'avoir vu mourir. Jésus, s'éveillant, commande en maître aux vents irrités et il ordonne à la mer de faire silence. Ainsi, par la gloire de sa résurrection, il écrase l'orgueil du démon et anéantit la race des Juifs. Il adresse des reproches à ses disciples, comme après sa résurrection, il leur reproche leur incrédulité. Donc nous aussi, la conclusion des pères de l'Église, lorsque nous sommes marqués du signe de la croix par le baptême, nous nous préparons à quitter cette terre. Nous serons aussi marqués du signe de la croix au moment de quitter cette terre par le sacrement de l'extrême onction. Le prêtre va marquer chacun de nos sens avec l'onction faite sous la forme d'une croix par le Saint-Crème, l'huile des affirmes. Nous nous préparons à quitter cette terre, nous entrons dans la barque avec Jésus, nous efforçons de traverser la mer. La vie sur la terre, c'est la mer. Il faut traverser la mer pour aller au port du salut. Ce port du salut, c'est le ciel. Mais dans le cours de la traversée, il s'endort, au milieu des frémissements de l'abîme. C'est la flamme de l'amour qui, malgré nos efforts pour pratiquer la vertu, s'affaiblit et devient languissante au milieu de la lutte contre les esprits impurs, contre les hommes méchants ou contre le tourbillon de nos propres pensées. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque. Et s'il est dans la barque de mon âme, quel que soit le bruit du monde, rien ne peut se passer contre moi. Le démon, comme un chien, dit saint Augustin, il peut aboyer, mais il ne peut pas mordre, parce qu'il est limité par la longueur de la chaîne qu'il attache au mur. Et tant que je garde une certaine distance, eh bien, je ne peux pas être mordu par le chien. Il peut baver, il peut ouvrir sa grande gueule, montrer les crocs, il peut aboyer comme un fou. Rien faire parce qu'il y a la chaîne qui l'empêche d'aller mordre. Cependant, au milieu de ces bouleversements intérieurs, ayons soin d'éveiller notre Sauveur et à l'instant, sa voix calmera la tempête, rendra à notre âme sa tranquillité et nous ouvrira le port bienheureux du salut. C'est ce qui devrait se passer dans chaque confession, mes bien chers frères. Chaque fois que nous allons nous confesser, il faudrait nous éveillons notre Seigneur et à ce moment-là, la voix du prêtre qui vient de pardonner nos péchés, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Saint-Esprit, va calmer la tempête, rendre à notre âme sa tranquillité et nous ouvrir le port bienheureux du salut, parce que la charité va revenir dans notre âme. Et donc faisons très attention, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est revenu dans notre âme par le sacrement de pénitence, bien de bien le garder. La même chose après la communion. Lorsque nous communions, nous recevons ce même Seigneur qui dort sur un coussin dans la barque, nous recevons chez nous. Donc, emmagasinons toutes les grâces nécessaires. Voilà, nous avons terminé le chapitre 4 de Saint Marc, Dieu aidant. La prochaine fois, donc, nous commencerons le chapitre 5 de Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.